Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, une revue de presse au sommaire de l'émission. Petite revue de presse. Voilà, en attendant que prochainement des invités viennent au micro de l'Entonnoir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a des news diverses. On va reparler du feuilleton sur l'isolement et la contention, la judiciarisation de l'isolement et de la contention. Et puis quelques autres petites choses. Et en deuxième partie de l'émission, je vous propose la lecture d'une brochure intitulée « L'abolition carcérale doit inclure la psychiatrie » par Stella Aqua Mensa, édité par Stéphanie Lynn Kaufmann Tim Koulou. Donc c'est un texte qui a été publié sur Disability Visibility Project le 22 juillet 2020, puis sur zinzinzine.net le 19 février 2021. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Pour commencer, donc alors c'est des morceaux, hein, c'est pas des... là c'est pas un article tout entier, c'est juste un petit aperçu. Dans Le Parisien du 7 avril 2023, le sort de Romain Dupuis entre les mains du tribunal des conflits. C'est donc, oui, je l'ai dit, info Le Parisien. La justice administrative a estimé cette semaine que cette juridiction, le tribunal des conflits, doit trancher le cas du meurtrier de deux infirmières à Pau en 2004. Une victoire pour les avocats de ce, alors dit l'article, schizophrène, interné depuis les faits et qui demande un régime plus souple. Le sort de Romain Dupuis, le double meurtrier de l'hôpital psychiatrique de Pau en 2004, est toujours en suspens. Placé dans une unité pour malades difficiles, UMD, en Gironde, depuis 18 ans, le jeune homme, aujourd'hui âgé de 39 ans, demande à bénéficier d'un allègement de la mesure. Son cas fait l'objet d'une âpre bataille juridique. Dans une décision rendue ce mardi, le tribunal administratif de Bordeaux, Gironde, a décidé de saisir une nouvelle juridiction pour régler cet épineux dossier. Donc c'est mardi en 8, hein, il y a 8 jours. Eh bien voilà, oui. Romain Dupuis, dont on avait quelques bandes sonores de, par exemple, France TV, qu'on peut entendre donc parler de sa situation.
Cet après-midi, Romain Dupuis s'est présenté devant la cour d'appel, accompagné par...
Alors ça, c'était il y a 9 mois.
Ses avocats et 3 personnels de l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Il affirme avoir changé de comportement, qu'il ne repassera jamais à l'acte. Il se sent stigmatisé avec une violation des droits de l'homme.
J'ai eu aucun signe d'agressivité pendant 17 ans. Il y a des choses qui sont flagrantes, je cherche qu'à me réadapter, j'ai un très bon comportement depuis le début, on n'a rien à me reprocher depuis 17 ans. Je suis quelqu'un de repenti, j'ai 38 ans, j'ai mûri, j'ai pas stagné au sein de l'hôpital, j'ai travaillé beaucoup avec les médecins, les infirmiers, le personnel soignant. Il y a toujours une bonne entente, j'ai toujours respecté qui que ce soit, même les patients. Les patients me connaissent très bien, je suis quelqu'un de sympa. Donc je pense qu'il y a des patients qui ont fait des passages à l'acte aussi, pas les mêmes mais similaires on va dire. Ils n'ont eu aucun problème pour sortir. Donc j'ai insisté auprès de la préfecture LRS, pourquoi ils s'acharnent sur moi, Romain Dupuis, quelle est la raison?
En 2004, à Pau, Romain Dupuis est l'auteur d'un double meurtre, une infirmière décapitée et une aide-soignante égorgée. Schizophrène, pénalement irresponsable, il est admis à l'unité pour malade difficile de Cadillac qu'il n'a jamais quitté. Aujourd'hui, ses avocats voudraient qu'il change d'établissement.
Ce qui est important, c'est que M. Romain Dupuis, au bout de 17 ans et après des soins qui ont été très efficaces, rejoigne une unité psychiatrique ordinaire où il a tout à fait sa place. Et plus du tout dans une UMD qui est une unité pour malades difficiles, alors que tout le monde dit qu'il n'est pas difficile.
Mais la préfecture n'émet aucun doute. Romain Dupuis doit rester à l'UMD de Cadillac car il présente une attitude manipulatrice. Le magistrat chargé du dossier rendra sa décision ce vendredi 17 juin.
Voilà, donc ça c'était il y a 9 mois. Et donc là, c'est, comme je le disais tout à l'heure, transmis au tribunal des conflits. Alors on va au Maroc, à Tanger, enquête après plusieurs suicides, entre guillemets, suspects à l'hôpital psychiatrique de Tanger, un article de Bladi.net du 6 avril 2023. Alors attention, là c'est assez violent, c'est... Le parquet de Tanger a décidé d'ouvrir une enquête sur les 10 suicides douteux enregistrés en une année à l'hôpital psychiatrique Erazi de Tanger. Les corps de certaines victimes portaient des hématomes au niveau de la tête et des marques de strangulation. Ces 10 suicides intervenus à l'hôpital psychiatrique Erazi de Tanger ont suscité l'ouverture d'une enquête judiciaire. Selon certaines sources, l'un des pensionnaires du centre psychiatrique serait à l'origine de cette tuerie maquillée en suicide, rapporte le quotidien Al-Akhbar. Notant que la plupart des patients, entre guillemets, suicidés, avaient des hématomes au niveau de la tête et des traces de strangulation. Mais l'absence de caméras de surveillance à l'intérieur des lieux où ont été découverts les corps inanimés des victimes, l'absence de caméras donc n'a pas permis aux enquêteurs de vérifier cette hypothèse. Ils ont également eu beaucoup de mal à collecter des informations dans le centre, les patients étant des malades mentaux qui comprennent difficilement les questions, dit l'article, qui leur sont posées et ne donnent pas des réponses exploitables. Le parquet a attiré l'attention de la direction de l'hôpital sur la nécessité d'installer des caméras dans tous les services du centre afin de faciliter le travail des enquêteurs. Par ailleurs, l'hypothèse de l'existence d'un tueur dans les rangs des pensionnaires n'a pas été écartée, même si la direction du centre considère ces décès comme des chutes accidentelles. Certains appellent à une véritable réforme du centre psychiatrique pour davantage assurer la sécurité des pensionnaires. Voilà, donc c'est pas tellement de commentaires à faire hein, sur l'état donc de la psychiatrie dans des pays extra-européens, dans ce pays extra-européen. D'autres infos, eh bien oui, une info qui nous vient du CRPA. Il y avait eu des les questions prioritaires de constitutionnalité posées par rapport à donc l'information aux patients de leurs droits et par rapport à l'isolement et à la contention, et aussi l'obligation d'un avocat par rapport à l'observation par un juge des libertés de la détention de ces mesures d'isolement et de contention. Eh bien, un communiqué du 10 avril 2023 du CRPA, Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, nous informe sur les suites données à ces questions. Sur 9 saisines du Conseil constitutionnel portant sur la problématique des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sous contrainte en institution psychiatrique depuis la mise à effet de la question prioritaire de constitutionnalité en 2010, il s'agit, alors je précise que c'est pour justement l'observation par un juge des libertés et de la détention des mesures d'hospitalisation sous contrainte en psychiatrie. Il s'agit ici de la deuxième décision de conformité. La première décision de conformité avait été prise le 14 février 2014 sur le statut législatif des unités pour malades difficiles. Elle était fondée sur la réforme de la loi du 5 juillet 2011 du 27 septembre 2013 qui avait été rendue nécessaire par la décision de censure partielle que le Conseil constitutionnel avait prise sur saisine du CRPA le 20 avril 2012. La décision de conformité du 31 mars 2023 est fondée sur deux réformes successives introduites par le gouvernement et le Parlement sur deux décisions de censure des premières rédactions de l'article L3222-5-1 relatif à l'isolement et à la contention en psychiatrie. Alors, non, je vais d'abord vous lire, parce que là, ce n'est pas tout à fait clair, l'article d'Hospimédia. Hospimédia, c'est l'actualité des territoires de santé, un article de Caroline Cordier du 31 mars 2023, nous annonçant que le Conseil constitutionnel a écarté ce 31 mars les griefs portés dans deux recours contre le cadre actuel de l'isolement contention en psychiatrie. Le cadre était accusé de méconnaître certains droits des personnes hospitalisées isolées ou contenues. En réponse à deux questions prioritaires de constitutionnalité examinées conjointement, le Conseil constitutionnel a écarté ce 31 mars les griefs portés contre le cadre légal actuel régissant l'isolement et la contention en psychiatrie. Dans cette décision qui était attendue en matière de respect des droits des patients, les sages estiment finalement que les dispositions en vigueur sont conformes à la Constitution, alors que l'on pouvait vraisemblablement s'attendre à une nouvelle censure au regard de ces précédentes décisions en la matière. Le gouvernement ne sera donc finalement pas contraint, à ce stade et sous réserve de nouvelles QPC à venir, de légiférer une nouvelle fois sur l'isolement contention en psychiatrie. Le Conseil a été saisi du paragraphe 2 de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 22 janvier 2022. Via l'une des QPC, il est en premier lieu reproché aux dispositions actuelles de ne pas prévoir, dès le début d'une mesure d'isolement ou de contention, la notification au patient de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention, d'une demande de main levée et de son droit à l'assistance d'un avocat. Ce requérant estime qu'il en résulte une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense. Il considère aussi que cela porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et à la liberté d'aller et venir. Via la seconde QPC, la requérante fait grief à ses dispositions de ne pas prévoir que le patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention est systématiquement assisté par un avocat lors du contrôle de cette mesure par le juge. Cet article du Code de la Santé publique méconnaîtrait ainsi les droits de la défense et la liberté individuelle. Ces mesures seraient En outre, pour les mêmes motifs, entaché d'incompétence négative dans des conditions affectant ses exigences constitutionnelles. Par ailleurs, certaines parties intervenant dans ce dossier ont fait valoir que, faute de prévoir la notification immédiate au patient de ses droits, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution, le droit à un procès équitable et l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Elle serait en outre entachée d'incompétence négative dans des conditions affectant ses exigences constitutionnelles. Tout d'abord, les juges constitutionnels indiquent qu'en ne prévoyant pas que le patient doit immédiatement être informé de son droit de demander la main levée de la décision de placement en isolement contention, les dispositions contestées ne méconnaissent pas, compte tenu de l'ensemble des voies de droit ouvertes et du contrôle exercé par le juge judiciaire, le droit à un recours juridictionnel effectif. Par ailleurs, il considère que si des mesures d'isolement et de contention constituent une privation de liberté, de telles mesures ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Ainsi, elles ne relèvent pas d'une procédure de recherche d'auteur d'infraction et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Dès lors, explique le Conseil, l'absence de notification au patient de son droit à l'assistance d'un avocat ne peut être contesté sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En outre, les conditions dans lesquelles un patient est assisté ou représenté par un avocat devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de main levée d'une mesure d'isolement ou de contention sont prévues par l'article L3211-12-2 du Code de la santé publique, dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi, font remarquer les juges. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'argument tiré de ce que méconnaîtraient les droits de la défense, le fait que le patient ne bénéficie pas obligatoirement d'une assistance ou d'une représentation par un avocat, conclut-il. Enfin, le Conseil estime que les dispositions contestées ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le principe de sauvegarde de la dignité humaine, la liberté d'aller et de venir, le droit à un procès équitable, ou les exigences de l'article 66 de la Constitution, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Il déclare donc les deux premières phrases du paragraphe 1 de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 22 janvier 2022 conforme à la Constitution. Voilà, donc ça a suscité un commentaire donc, du CRPA que je peux vous lire maintenant, vu que nous avons placé le contexte. Donc un communiqué du 10 avril 2023, sur 9 saisines du Conseil constitutionnel portant sur la problématique des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sous contrainte en institution psychiatrique depuis la mise à effet de la question prioritaire de constitutionnalité en 2010, il s'agit ici de la deuxième décision de conformité. La première décision avait été prise le 14 février 2014 sur le statut législatif des unités pour malades difficiles. Elle était fondée sur la réforme de la loi du 5 juillet 2011 du 27 septembre 2013 qui avait été rendue nécessaire par la décision de censure partielle que le Conseil constitutionnel avait prise sur saisine du CRPA le 20 avril 2012. La décision de conformité du 31 mars 2023, celle que nous venons de vous exposer, est fondée sur deux réformes successives introduites par le gouvernement et le Parlement sur deux décisions de censure des premières rédactions de l'article L3222-5-1 relatif à l'isolement et à la contention en psychiatrie. Quand la mauvaise foi et la volonté séculaire de cantonner les personnes reléguées en institution psychiatrique dans une infra-humanité se conjuguent, on en voit le résultat. Les dates des 9 décisions prises par le Conseil constitutionnel depuis 2010 en matière d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte sont les suivantes. 26 novembre 2010, 9 juin 2011, 6 octobre 2011, 2 décembre 2011, 20 avril 2012, 14 février 2014, 19 juin 2020, 4 juin 2021, et 31 mars 2023. Neuf dates donc de décisions prises par le Conseil constitutionnel depuis 2010 en matière d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte. Alors c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Alors un autre article issu d'un journal, un nouveau journal, qui s'appelle La Brèche, qui est vendu en kiosque, qui parle pas mal de. D'ailleurs, de certains effets du pouvoir en général, et parfois du pouvoir médical, comme peut-être à l'occasion, on pourra vous lire l'article concernant le diabète. Mais là, aujourd'hui, c'est un article concernant le CRA de Lyon. Le CRA de Lyon, une fabrique de violence, dénonce un médecin démissionnaire. C'est la brèche numéro 2 de mars-avril 2023. Le centre de rétention administrative CRA de Lyon est une fabrique de violence particulièrement efficace et inhumaine. C'est par ces mots marquants que se conclut la lettre ouverte du docteur Thomas Millot, médecin ayant exercé pendant 5 ans à l'unité médicale du CRA de Lyon-Saint-Exupéry. Il revient pour La Brèche sur cette expérience dans un des centres destinés aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, dont il est sorti, je cite, « broyé par la politique rétentionnaire déshumanisée de son propre pays ». Alors, c'est une lettre en date du 16 décembre 2022, publiée sur le site de la CIMAD. Thomas Millot est médecin urgentiste de formation en exercice depuis 2005. À partir de 2012, dans une volonté de diversifier son activité, il commence à exercer en milieu fermé à temps partiel. Ce choix le mène ainsi à la prison de Villefranche-sur-Saône. Quelques années plus tard, il se dirige vers le CRA de Lyon-Saint-Exupéry, dans lequel il arrive en octobre 2017. À l'époque, 24 de ces centres sont ouverts sur le territoire français. Ces bâtiments, dont la police aux frontières est à la responsabilité, sont des lieux d'enfermement destinés aux personnes en situation irrégulière. Le ministère de l'Intérieur précise ainsi que la rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de son renvoi forcé. Centre de rétention administrative, fiche consultable sur servicepublic.fr. En 2018, un texte de loi a porté la durée légale de la rétention à 90 jours. À son arrivée au sein du centre, Thomas Millot, s'étonne devant le manque d'informations qui lui sont destinées. Le rôle du médecin du CRA est non défini. Il y a une obligation légale, dans tous les milieux fermés, à offrir l'accès à un service médical. Cependant, le législateur n'a pas prévu le moindre guide de prise en charge sanitaire au sujet des CRA. Un tel guide existe sous la forme d'une circulaire ministérielle pour les prisons, par exemple. On sait qui fait quoi, quel est le but des soins en prison, etc. Pour les CRA, rien n'est écrit, on fait donc strictement ce que l'on a envie de faire. Les difficultés rencontrées ne sont pas une surprise pour le médecin et son équipe. Quand on vient travailler au CRA, dit-il, on vient en conscience, en sachant que ça va être complexe. On n'arrive pas là par hasard. On a une idée assez importante de la mission de service public et des soins à offrir, y compris aux personnes les plus précaires. Ce sont des pratiques qui ne sont pas évidentes. Fin de citation. Les soins alternent ainsi entre, je recite, la médecine générale, la psychiatrie, la dictologie, la médecine d'urgence. Mais d'après notre interlocuteur, l'équipe se débrouille avec beaucoup d'envie, beaucoup de volontarisme et réussit à ne pas s'essouffler. Le basculement a eu lieu début 2022 avec l'ouverture du nouveau centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry, un projet à 24 millions d'euros. Le nouveau centre de rétention de Lyon, première étape de la visite de Gérald Darmanin, Le Progrès, 30 juillet 2022. Dénoncé par plusieurs associations, dont la CIMAD. Alors, ouverture du nouveau CRA de Lyon-Saint-Exupéry, des capacités d'enfermement doublées pour des personnes étrangères toujours plus criminalisées, 25 janvier 2022, sur le site lacimade.org. Malgré de meilleures conditions de rétention d'après la préfecture du Rhône, Thomas Millot, qui estime que l'ancien bâtiment érigé hâtivement sur la base d'un vieil hôtel Formule 1 était bancal mais fonctionnait correctement, ne partage pas cette analyse. Ce nouveau centre est une prison, ni plus ni moins. Sauf que c'est la police aux frontières qui s'en occupe et que celle-ci n'a absolument aucune culture pénitentiaire. La préfecture a donc construit une prison sans surveillance et sans aucun personnel spécialisé. Les conséquences ne se font pas attendre. Les autorités entassent des gens qui sont dans des situations de précarité, parfois dans des logiques de toxicomanie, dans un lieu qu'elles ferment à clé, avec des surveillants qui regardent ce qui se passe depuis leur bureau, à travers des caméras. C'est une véritable poudrière. Il y a énormément de violence, qu'elle soit physique ou verbale. C'est un lieu dans lequel il s'agit de survivre, puisque l'institution est ailleurs. Personne ne fait de lien social. Fin de citation. C'est ainsi que, d'après notre interlocuteur, une diffusion massive de l'agressivité et de la violence s'est opérée auprès de tous. Une difficulté de plus, une difficulté de trop, sans doute, à laquelle s'est ajouté le sentiment d'être humilié en l'absence de tout soutien de la part de la préfecture. Personne n'en pouvait plus. Nous, membres du personnel médical, nous sommes venus à exiger la présence d'un policier durant les consultations pour assurer notre propre sécurité, au mépris même des questions de confidentialité et de respect du secret médical qui nous tenaient extrêmement à cœur. Cerise sur le gâteau, cette demande nous a été refusée. Du côté des pouvoirs publics, c'était le silence absolu, confie-t-il désabusé. Le médecin et son équipe décident alors de quitter le CRA avant de se renier complètement, pour ne pas se renier complètement. La préfecture du Rhône assure que depuis, des aménagements ont été réalisés à la suite de retours de terrain via un comité se réunissant régulièrement pour faire évoluer les pratiques et les conditions de travail interservices. Après son départ en décembre dernier, lors duquel il a diffusé sa cinglante lettre ouverte, Thomas Millot est retourné exercer en prison. Il continue cependant d'avoir des nouvelles provenant du centre. Le service médical a été confié à une société privée, car tous mes collègues de la médecine pénitentiaire refusent de mettre les pieds là-bas. Fin de citation et fin de l'article CRA de Lyon, une fabrique de violence, dénonce un médecin démissionnaire. Pour finir, je vous propose la lecture de cette brochure dont j'ai parlé. Donc un texte de Stella Acquamensa, édité par Stéphanie Lynn Kaufmann-Mtinkulu. De 2020 et édité sur Zinzin le 19 février 2021. Avertissement de contenu, sanisme, racisme, violence, violence d'État, incarcération, institutionnalisation, traitement forcé, torture, coercition médicale, contrainte, isolement, abus, violence sexuelle, colonialisme, dépeuplement. Donc, avertissement. Il circule aux États-Unis un dangereux mensonge fondé sur le mythe de la désinstitutionnalisation des asiles psychiatriques. Alors, c'est un texte traduit de l'anglais ou de l'américain. Et il y a des notes aussi. Donc la première note dit « Nous qualifions de la désinstitutionnalisation de mythe parce qu'elle n'a jamais été pleinement accomplie. Bien que les populations à l'intérieur des institutions aient été réduites, beaucoup de membres de notre communauté sont toujours incarcérés dans des institutions psychiatriques, des prisons, des maisons de retraite, des foyers de vie et autres espaces où sont concentrées des populations pour les soustraire de la société. Pour plus de précision, nous recommandons Decarcerating Disability de Liat Ben Moshe. » Alors voilà, cette mystification, comme quoi les asiles psychiatriques seraient désinstitutionnalisés, consiste à propager l'idée que l'asile est mort et appartient au passé. On prétend que désormais, les patients et patientes, entre guillemets, ont des droits, sont traités avec dignité humaine et ne sont pas criminalisés pour leur neurodivergence. On prétend que les contentions et les traitements médicamenteux forcés ne sont utilisés que dans des cas extrêmes. On prétend que le système de santé mentale est là pour nous aider, nous accompagner et nous soigner. Et maintenant, alors que la notion d'abolition a fait son entrée dans le débat public, on prétend que ce même système devrait être considéré comme une alternative à l'incarcération dans les prisons. Mais celles et ceux d'entre nous qui avons survécu à une incarcération psychiatrique savent que non seulement l'asile n'est jamais mort, mais qu'il est et a toujours été une forme de prison. Connaissant la réalité qui se cache derrière ces mythes, nous œuvrons à l'émergence d'un autre discours. Comme le dit Hussein Abdillahi Boulan dans son ouvrage Franz Fanon, le psychiatre révolutionnaire, la psychiatrie, comme toute thérapie, devrait être la rencontre de deux personnes libres. Dans notre société, c'est très loin d'être le cas. Tous les États du pays autorisent la détention sous contrainte. Cela signifie que des gens peuvent décider, sans votre consentement, que vous présentez un risque pour vous-même ou pour autrui et que l'on doit vous soustraire à votre communauté ou vous surveiller à l'intérieur de celle-ci en guise de soins. Bien que les personnes handicapées se soient battues sans relâche pour leur droit de vivre dans la communauté, nous devons admettre les nombreuses insuffisances qui existent toujours et qui rendent possible notre confinement forcé en collectivité. Je fais une petite pause là par rapport au terme personne handicapée, qui est, c'est une traduction, mais aussi que le terme d'handicapé peut déranger certaines personnes qui sont justement étiquetées handicapées et les réduisant à des personnes réduites justement. Voilà, je continue. Lorsque nous parlons de l'abolition des prisons, un discours qui a été largement fondé et demeure l'initiative de femmes noires révolutionnaires, nous devons prendre en compte l'histoire de la psychiatrie et mieux comprendre comment le système de santé mentale perpétue les processus de criminalisation, de maintien de l'ordre et de surveillance. En y regardant de plus près, nous pouvons constater des similitudes frappantes entre les prisons et les institutions psychiatriques. Comme l'a décrit Léa Ida Harris, les prisons, tout comme les institutions psychiatriques, ont une surreprésentation des personnes non blanches, bafouent les droits et la sécurité des personnes transgenres et non binaires, ont recours aux forces de l'ordre, transport et intervention, ont recours à l'isolement et à l'enfermement dans des cellules, chambres, administrent de force des médicaments, également appelés camisoles chimiques, utilisent des contraintes physiques, restreignent drastiquement l'accès à la lumière du jour, à l'air frais, aux téléphones portables, aux informations médias et au monde extérieur. En outre, les violences sexuelles sont courantes, les pouvoirs d'appel des décisions juridiques médicales sont limités, et la grande majorité des détenus sont des survivants et survivantes d'expériences traumatiques. Cette année, le rapporteur spécial de l'ONU, alors c'était donc, je le rappelle, en 2020, hein, si je ne me suis pas trompé, oui, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture a présenté un rapport affirmant que les interventions psychiatriques sous contrainte pourraient être assimilées à la torture. La culture carcérale ne peut pas être combattue par un meilleur financement du système de santé mentale. Le système de santé mentale est fondamentalement carcéral, ce qui signifie qu'il est l'un des nombreux systèmes apparentés qui fonctionnent pour détenir et surveiller les gens, leur enlever tout contrôle de leur vie, les isoler de leur communauté et restreindre leur liberté. De par son fonctionnement aux États-Unis et dans tous les endroits touchés par le colonialisme, la psychiatrie est ancrée dans la torture, la suprématie blanche et la culture de l'humiliation et de la punition. Oui, l'asile existe encore et la police adore l'asile. L'abolition signifie faire tomber toutes les cages, y compris celles qui fonctionnent sous couvert de soins psychiatriques. L'abolition de la psychiatrie n'implique pas d'interdire aux gens de s'approprier les diagnostics psychiatriques qu'ils ou elles estiment leur être utiles, ni de leur interdire de continuer à prendre des médicaments psychiatriques qu'ils ou elles estiment efficaces. Alors là, il y a une petite note. Bien que la psychiatrie soit un système fondamentalement violent, il existe des médicaments psychiatriques qui sont efficaces pour certaines personnes, bien qu'il soit nécessaire de prioriser le traumatisme structurel et culturel qui crée des manifestations neurodivergentes de souffrance. Nous ne sommes pas contre les médicaments et nous ne préconisons pas que les gens cessent de prendre des médicaments qui leur sont utiles. Nous pensons cependant que la création et le développement des médicaments psy pourraient parfaitement être prises en charge par des entités post-psychiatriques qui prendraient en compte et consolideraient les bribes de sagesse qui ont incidemment émergé de cette structure violente. Oui, au moins, il ne reste plus grand-chose de sagesse, mais bon, on peut en trouver quelques bribes, donc voilà. En revanche, donc l'abolition de la psychiatrie n'implique pas d'interdire aux gens de s'approprier les diagnostics ni de leur interdire de continuer à prendre les médicaments. En revanche, cela sous-tend que la notion de maladie mentale a été inventée pour pathologiser les réactions logiques au stress et au traumatisme omniprésents dans un monde violenté par le colonialisme et le capitalisme. La psychiatrie a été décrite comme une colonisation médicalisée des terres, des peuples, des corps et des esprits. Les intentions coloniales de la psychiatrie ont été illustrées de manière frappante par le diagnostic de drapétomanie, une maladie mentale censée expliquer pourquoi les esclaves noirs du sud de l'antebellum fuyaient leur camp de la mort, dont le traitement consistait à les traiter davantage comme des enfants. Comme l'indique China Mills dans Globalizing Mental Health, la détresse causée par les conditions socio-économiques et souvent les réformes économiques néolibérales en vient à être reconceptualisée en tant que maladie mentale traitable par des techniques qui s'appuient sur des conditions similaires à celles qui ont initialement mené à la détresse. L'abolition de la psychiatrie implique que le résultat voulu et effectif de l'usage du signifiant de maladie mentale est de donner aux gens l'impression qu'ils et elles n'iront jamais mieux et que leur détresse est non pas une réaction à des stimuli extérieurs, mais quelque chose d'inhérent à la composition de leur cerveau. Cette logique consiste essentiellement à blâmer les victimes et à inverser la responsabilité des cycles de violence qui créent les conditions de la souffrance psychologique, sans compter que la théorie du déséquilibre chimique a été démystifiée à maintes reprises. Cela implique aussi que la psychiatrie a été construite sur un désir fondamental de déshumaniser, de droguer et de mettre à l'écart celles et ceux dont le comportement et les façons d'être divergent du statu quo. Ce statu quo était et est toujours blanc, patriarcal et complètement obnubilé par la respectabilité et la conformité aux conceptions de la normalité servant les intérêts de l'État. Alors peut-être ajouterons-nous de l'État et des multinationales. Je ferme la parenthèse. Un grand nombre de survivants et survivantes de la psychiatrie ont réalisé des avancées incroyables dans leur quête de justice, de réforme et parfois d'abolition. Mais la nature actuelle des hôpitaux psychiatriques, qui pour la plupart sont restés des prisons dégradantes et violentes dans lesquelles une majorité d'anciennes personnes détenues affirment ne pas avoir été aidées, mais encore plus traumatisées, démontre sans doute que l'asile n'est jamais mort. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas censé mourir. La psychiatrie est l'éthique de l'asile et il ne disparaîtra pas tant que la psychiatrie ne disparaîtra pas. Nos discussions sur l'abolition de la psychiatrie gagnent en profondeur lorsque nous examinons l'histoire de la culture carcérale sous ses nombreuses formes. Maintien de l'ordre, peine de mort, rejet des personnes divergentes et, sous-jacent à tout cela, une adhésion à l'idée binaire selon laquelle il y aurait de bonnes et de mauvaises personnes. La sanction et le rejet des personnes mauvaises et divergentes ne constituent pas un problème exclusivement états-unien, mais leurs manifestations dans ce pays sont uniques et inextricablement imbriquées à l'asservissement et au génocide des personnes noires et autochtones. En Amérique, avec 3K, hein, qui évoque évidemment le Ku Klux Klan, les bonnes personnes adhèrent ou s'intègrent naturellement au statu quo de l'État et deviennent des rouages utiles dans les machines jumelles de la suprématie blanche et du capitalisme. L'État englobe dans la catégorie des mauvaises personnes celles dont l'utilité pour l'État est mise en doute, ce qui implique une surreprésentation des personnes non blanches, des personnes trans et non binaires, des personnes LGBTQIA, etc., des personnes handicapées et neurodivergentes, des personnes pauvres et de celles qui dénoncent la violence de l'État. Il est également important que nous parlions des préjudices. Lorsque nous pensons aux institutions, beaucoup d'entre nous pensent qu'il s'agit de protéger la société des personnes qui causent le plus de préjudice parmi nous. En vérité, nous allons tous et toutes faire du mal à quelqu'un ou quelqu'une au cours de nos vies. Et reconnaître cela plutôt que de le projeter sur certains individus est primordial pour l'abolition, puisque cela nous permet de nous exercer à l'antidote de la punition, la responsabilisation. La culture carcérale nous a conduits et conduites à nier notre capacité commune à causer toutes sortes de préjudices tout en priorisant le crime et en le définissant avant tout en fonction de comment nous perturbons l'ordre plutôt que comment nous nous faisons du mal les uns une aux autres. En vérité, les structures auxquelles nous sommes censés obéir afin d'être considérés comme de bonnes personnes sont à l'origine même des cycles de violence qui créent nos capacités à nuire. De plus, nos réactions raisonnables à la violence légitimée par l'État sont considérées comme malfaisantes. Ce qui revient à rejeter la faute sur les victimes. Oui, il y a énormément de sources de souffrance dans le monde, mais si nous tentons d'imaginer un monde où les structures coloniales ne maltraitent plus nos communautés, tout en alimentant gaiement les cycles de violence dans leur sein, il est possible d'envisager un rétablissement sur le plan interpersonnel et communautaire qui nous transformerait au point de rendre possible le dépassement de la culture carcérale. Il s'agit de... Non. Il est utile de souligner que la culture carcérale existe dans le monde depuis au moins 4000 ans. Certains anthropologues datant l'origine de la peine capitale à des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Tout ça pour dire, la culture carcérale est punitive, est assez fondamentale pour l'humanité. Nommer la captivité pour ce qu'elle est, antique, nous aide à affronter la tâche colossale de réparation qui mène à l'abolition. Simultanément, il y a eu et il y a toujours des sociétés et des communautés qui résistent aux hiérarchies et aux punitions néfastes. Les peuples autochtones ont utilisé des cercles de parole pendant des milliers d'années, lesquels sont une incarnation de l'osjoji, nat ani, une expression navajo, signifiant les personnes qui parlent ensemble pour reformer des relations entre elles et eux et avec l'univers. Nous considérons ces pratiques de justice restauratrice comme des guides précieux dans notre quête pour l'abolition. La justice transformatrice est une évolution issue de la justice restauratrice qui prend en compte notre besoin de remédier également aux systèmes d'oppression qui sont ce qui, en premier lieu, nous pousse à agir de façon néfaste dans nos relations. La culture carcérale omniprésente dans le monde est en grande partie le résultat d'une hiérarchie des valeurs humaines qui ont longtemps servi à simplifier la compréhension que nous avons les uns et une des autres. Si réellement la capacité à nuire est commune à tous et toutes, alors il est important que nous prenions tous et toutes connaissance de nos capacités communes de transformation. Si nous partageons également une capacité à manifester diverses formes de détresse et de fonctionnement neurologique, nous devons nous débarrasser du binarisme sein d'esprit fou ou folle et nous permettre à tous et toutes d'exister librement et d'accéder à la guérison. En nous appuyant sur les enseignements de la justice réparatrice et transformatrice et de la justice handicapée, nous croyons fermement qu'un monde post-institution est à la fois possible et en train de voir le jour. Alors je refais une deuxième parenthèse. Là, Andy, c'est une réappropriation finalement de ce mot qui au départ est dévalorisant et en fait un mot quelque part un peu communautaire et de lutte. D'une communauté de lutte, voilà. Exactement. Je ferme la parenthèse. Il n'y a aucun moyen pour nous tous et toutes d'être libres sans démanteler les systèmes de contrôle réducteurs qui imposent des notions de normalité et de légalité au service de l'État et dont les conséquences sont fatales pour beaucoup d'entre nous. Sur le plan spirituel, elles pourraient être fatales pour nous tous et toutes. Il y a toujours un plan spirituel quand on a des auteurs qui nous viennent des États-Unis. Voilà, c'est un petit aparté. Je continue. La justice Andy et la justice réparatrice et transformatrice nous demandent d'imaginer le monde dans lequel nous voulons vivre collectivement et de mettre en pratique ces idées et ces valeurs chaque jour. Ces approches nous donnent les outils nécessaires pour façonner une société qui favorise notre guérison. Lorsque nous pensons à un monde post-psychiatrique et post-carcéral, nous imaginons des pères qui marchent côte à côte dans la souffrance et développent des compétences empathiques qui encouragent la réciprocité. Nous imaginons des processus de justice transformatrice qui nous aident à résister à l'humiliation et la punition, à accepter la responsabilisation et à combattre les tendances intériorisées, nous amenant à faire subir des préjudices et des abus. Nous imaginons un monde où nous avons conscience que notre détresse est une réaction compréhensible au cycle de violence et de souffrance. Alors, une petite note 4. Certaines manifestations de la neurodivergence ne nous apparaissent pas comme étant des réactions à un traumatisme ou à un stress interpersonnel. Parfois, c'est parce qu'il s'agit de réactions à des traumatismes et à un stress systémique qui sont tellement omniprésents que nous ne réalisons pas leur impact sur notre corps-esprit. Parfois, c'est parce que le traumatisme et le stress sont des héritages corporels de nos parents et ou de nos ancêtres. Parfois, nous ne savons pas d'où viennent les souffrances liées à notre neurodivergence et c'est là qu'il est peut-être intéressant de s'identifier comme souffrant d'une maladie mentale. Parfois, notre neurodivergence ne nous cause aucune souffrance particulière et n'a donc pas besoin d'explication. C'est à vous, à nous, de choisir le langage qui convient à notre propre expérience. Ce que nous espérons, c'est que nous nous autorisions à questionner la façon dont les diagnostics et les mécanismes psychiatriques peuvent empêcher notre connaissance de nous-mêmes, faisant des choix à notre place et classifiant nos expériences en termes exclusivement médicaux. Fin de la note 4. Et donc, je reprends le texte. Nous imaginons un monde où nous avons conscience que notre détresse est une réaction compréhensible au cycle de violence et de souffrance. Nous nous imaginons passer des moments reposants et enrichissants avec des personnes aimantes et dans des espaces aimants lorsque nous sommes en crise. Nous nous imaginons guérir de nos traumatismes à nos propres rythmes et manières. Nous nous imaginons ne plus pathologiser et diaboliser les belles et inoffensives manifestations de la neurodiversité. Nous nous imaginons ne jamais, en aucune circonstance, administrer des médicaments psychiatriques dans le corps de quelqu'un ou de quelqu'une sans son consentement. Et peut-être plus fondamentalement, nous nous imaginons prenant réellement soin les uns des autres, sans nous faire subir de paternalisme et d'emprisonnement, tout en qualifiant cette violence de soins. Des formes non carcérales et bienveillantes de soins communautaires et de gestion de crise se développent déjà autour de nous pour nous aider à écrire l'après-prison. Le projet LETS, L-E-T-S, travaille à cela quotidiennement par le biais des modèles de pair aidance en santé mentale qui existent en dehors du complexe carcéro-industriel. Voici d'autres merveilleux exemples. Le réseau sur l'entente de voix, MALD in America, SINS Invalid, Health Justice Commons, Western Mass Recovery, Learning Community, HEARD, H-E-A-R-D, et bien d'autres encore. Nous remarquons ici qu'elles sont pratiquement toutes issues des États-Unis. Voilà, je referme ma parenthèse. Les fondations ont été posées, mais ensemble nous devons faire le travail de construire, d'imaginer et de créer les nouveaux mondes dans lesquels nous voulons vivre. Comme l'a brillamment déclaré Frantz Fanon, si c'est la société qui est malade, alors c'est la société qui doit être remplacée. Bon, ça, c'est pas la meilleure conclusion, mais enfin, en tout cas, reprenons nos vies en main. Et ne nous la laissons pas voler par ces institutions mortifères. Voilà, on pourrait dire aussi ça. Donc c'était un texte intitulé « L'abolition carcérale doit inclure la psychiatrie », donc publié sur le site Zinzinzine, et qui a été aussi publié sur Disability Visibility Project le 22 juillet 2020. Donc c'était une traduction participative sur laquelle plusieurs personnes ont pu proposer des améliorations, et c'est une version qui est aussi elle-même susceptible d'être modifiée. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui, et nous vous laissons avec ce morceau électro de Displacer, alors intitulé Transit, et donc Displacer, c'est Michael Morton. Donc c'est à la suite du morceau qu'on a commencé à entendre tout à l'heure. Voilà. Eh bien, au revoir. Salut.